question qui n'a absolument rien à voir. On a souvent été confronté aux amis qui s'arrêtent au master et qui ont beaucoup de difficultés à trouver un travail, surtout parce que les annonces sont rédigées de manière à leur demander un certain nombre d'années de compétences, d'expérience professionnelle. Est-ce que vous avez des cas comme ça? Est-ce que vous savez comment les gens peuvent faire pour trouver plus facilement du travail à l'issue des études, quoi?
L'idée, de toute façon, c'est on a tendance à trop valoriser le diplôme. Je crois que ce qui compte réellement pour les professionnels, c'est la compétence et l'expérience. C'est pour ça qu'il faut absolument aller, pas que sur les offres. Vous êtes obligé de correspondre à des critères pour pouvoir y répondre. Et le réseau, les candidatures spontanées vous permettent de... Donc, pour info, je ne l'ai pas dit, c'est bien votre marque. S'il y a une offre d'emploi qui vous intéresse, mais vous ne collez pas, on est clair sur les critères exigés. Si vous ne collez pas, ça ne sert à rien d'envoyer une candidature. Vous n'allez pas être sélectionné. Donc, l'idée, c'est d'être stratégique et de vous dire, voilà, cette entreprise m'intéresse. Je sais qu'elle a des besoins puisqu'elle diffuse une offre, mais je ne colle pas à cette offre. Faites une candidature spontanée en disant que vous êtes intéressé par tel et tel profil de poste, sans dire que c'est ce poste-là, et vous avez beaucoup plus de chances d'avoir l'entretien. C'est stratégique. Mais j'ai des gens qui ont eu le poste comme ça. Ou alors, autrement, vous allez, pareil, faire des enquêtes professionnelles vers des gens, vous savez qu'il y a des besoins, mais vous ne leur dites pas. Donc c'est stratégique aussi, c'est une autre démarche. Mais c'est un moyen, le problème de l'offre d'emploi, c'est que vous êtes dans un critère de sélection, vous devez coller au profil. Et en plus, quelquefois, on a rédigé une offre, alors qu'en réalité, au niveau du contenu, on a mis ça parce qu'il fallait mettre quelque chose. Et qu'en réalité, c'est négociable, parfois. Mais sauf que quand on fait des CV, quand on reçoit les CV, on est sur ces critères obligatoires. Mais une fois qu'on a rencontré la personne en dehors de l'offre et qu'elle nous a mis elle nous a séduite pour des tas d'autres choses, quelquefois on en oublie certains critères parce qu'on les a compensés. Et le meilleur moyen de compenser un handicap, c'est d'aller rencontrer les gens. Et après, pour info aussi, tant que vous êtes inscrite au Pôle emploi, vous avez le droit aussi de faire ce qu'on appelle des évaluations milieu de travail. Jusqu'à 80 heures. C'est un droit que vous avez, ça vous protège au niveau de l'assurance. Donc vous demandez une évaluation milieu de travail dans des endroits où vous avez fait vos enquêtes, où les gens sont prêts à vous recevoir en stage, en immersion, et du coup vous avez de quoi valoriser sur 2012. C'était 2012, assistante 2 sur exactement des choses qui sont demandées sur le terrain. Vous n'avez pas triché, même si vous avez fait qu'une évaluation milieu de travail de 3 semaines, vous avez mis 2012, vous n'avez pas mis 3 semaines. Là aussi c'est le CV de la pure stratégie. C'est comment faire en sorte que je vais avoir mon entretien. Est-ce que là, mon CV, il valorise? Donc le gros travail à faire dans un CV, c'est d'avoir peut-être un cadeau pas extraordinaire d'apparence, mais de faire un tellement bel emballage qu'on va se dire, on va recevoir la personne. Après, il faut assumer derrière, donc il ne faut jamais mentir, mais ne pas tout dire, c'est pas mentir. Donc si vous avez, par exemple, fait une formation où vous n'avez pas eu le diplôme, c'est pas parce que vous n'avez pas eu le diplôme que vous ne pouvez pas le mettre sur le CV, puisque sur la rubrique, vous mettez « formation ». Si vous l'avez fait 2 semaines, mettez pas 2 semaines, mettez que l'année. Après, il faudra assumer en entretien. Ah, quand même, vous avez fait que 2 semaines, vous avez mis 2012. Bah oui, excusez-moi, je vous le dis, là, je suis honnête, j'ai fait effectivement 2 semaines. Mais c'était 2 semaines très, très enrichissantes où j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, coller à une offre, c'est en fait faire le travail de la grille d'observation du chef d'entreprise ou du responsable de recrutement. C'est décortiquer tous les critères qui sont demandés. Donc, vous devenez un professionnel du recrutement parce que vous analysez l'offre. Et du coup, vous la scindez en 3 parties avec 2 temps. Premier temps, en savoir, en formation, en expérience, en compétences et en traits de caractère, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous les mettez les mots-clés. Quels sont ensuite en dessous les critères exigés et les critères souhaités? Et à côté des critères souhaités, si je ne les ai pas, comment je peux compenser en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être? Du coup, vous avez décortiqué l'offre et vous allez faire après un CV, des lettres de motivation, que en fonction de ce qui est demandé au niveau du profil.
Ouais, mais les critères entre exigés et souhaités, ils sont rarement séparés.
Ils sont dits en tout cas. Quand c'est exigé, c'est écrit. Quand c'est pas exigé et que c'est pas écrit, c'est qu'on peut négocier. D'accord. Tout simplement.
Parce qu'il y a beaucoup d'offres où c'est écrit compétences demandées.
Ça veut dire que c'est négociable. Si vraiment c'est quelque chose d'important, on va mettre exigé.
Donc si on colle à une partie des compétences qui sont demandées.
Oui, on peut tenter. D'accord. Par contre, on réfléchit à comment gérer l'handicap. Qu'est-ce que je peux rajouter en plus pour le compenser les critères qui sont demandés que je n'ai pas? Mais si c'est exigé, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire une candidature spontanée. Si c'est exigé, normalement, oui, c'est par définition, sauf si le recruteur ne sait pas ce qu'il fait, mais normalement, si c'est exigé, c'est que ce n'est pas négociable, quoi. Par contre, si vous sortez du critère de de la sélection et que vous allez le voir dans le cadre d'une enquête ou d'une candidature spontanée, c'est complètement autre chose. Mais pensez beaucoup à l'objet du mail, pas candidature spontanée, mais offre de collaboration. Hein ? Et dans une offre de collaboration, vous n'êtes pas obligé de mettre en pièce jointe votre CV. Le CV est un outil très dangereux. Il cherche plus à mettre à la poubelle qu'à sélectionner la personne. Donc si l'objectif, c'est de prendre, d'avoir l'entretien, l'idée dans le cadre du réseau, c'est ça aussi, c'est d'où l'intérêt du réseau, c'est de, en fait, envoyer un mail, et c'est seulement à la fin qu'on se dit, bon, ben, on ne sait pas qui il est, quoi. C'est, vous êtes expert de tel domaine, vous avez une expérience de tant d'années, vous aimeriez le rencontrer pour échanger avec lui sur ses besoins. Pour ce faire, vous aimeriez le rencontrer, et c'est que quand il voit qui c'est que vous êtes en recherche d'emploi quelque part. Vous voyez ? L'idée, c'est vraiment de vous positionner comme un professionnel. Vous verrez la différence. Et parfois, quand c'est pour une enquête, j'ai des gens qui ont mis SOS sur l'objet. SOS, besoin d'information. Et ils ont eu beaucoup plus facilement les rendez-vous. Alors, c'est risqué, encore une fois. Mais n'empêche que quand vous avez SOS, besoin d'information sur votre boîte mail, sur les 200 mails à lire, vous cliquez dessus, hein, sur SOS. C'est des trucs instinctifs, automatiquement. Donc, il faut vraiment, je crois qu'il y a un gros travail à faire en marketing sur comment attirer l'œil et comment faire en sorte que la personne va avoir envie de vous recevoir. Donc, il faut travailler sur la notion de mystère. Il y a des tas de choses à travailler sur le non-dit derrière les mots. Et moins on en dit, moins on prend de risques. Ça aussi, c'est important. Donc, très concis, très bref, très synthétique, ça vous savez faire, normalement. Et un objet, surtout, offre de collaboration, proposition de service, enfin... Pas candidature à l'offre de candidature spontanée, sinon on ne clique pas. Si on a d'autres priorités dans la journée, si le but c'est d'être lu, c'est d'attirer l'œil, sans jamais mentir.
J'ai une question par rapport à la thèse et au profil des recruteurs. Justement, quand on fait une thèse, je pense par exemple au génie des plantes, c'est ça ? Est-ce qu'on n'est pas trop enfermé dans notre spécialité ? Est-ce que ça ne peut pas effrayer des recruteurs vis-à-vis de notre profil en se disant « il est spécialisé dans tel domaine, ça ne correspond pas ». Pas trop à ce que je recherche, comment est-ce que nous, on peut se démarquer à la fois de notre spécialisation et en même temps nous en servir ?
En fait, je pense qu'on est tous spécialistes de quelque chose à un certain niveau. Donc, je pense que ça, il faut tout le temps en avoir conscience. Mais après, c'est une question de stratégie en fonction des ciblages. Si vous estimez, effectivement, comme vous le dites, que pour cette entreprise-là ou cet établissement-là ou ce professionnel-là, mettre trop en avant votre spécialité, ça devient dangereux parce que vous allez perdre peut-être effectivement des éléments potentiels, surtout en candidature spontanée. L'idée, c'est de mettre en avant peut-être juste votre domaine ou le secteur dans lequel vous êtes. Et d'avoir au niveau des compétences que vous mettez en avant, plutôt des compétences génériques, avec en plus des compétences spécifiques à l'intérieur de vos compétences listées. Pourquoi pas mettre les compétences génériques et après compétences spécifiques de points et là deux, trois petites puces spécifiques. Voyez ? Mais encore une fois, la question ne se pose pas si on fait une candidature spontanée et qu'on suit ce que j'avais envie de vous dire, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas de CV, on n'a plus de problème. Le problème est résolu. Parce qu'après, on va en entretien, même mieux, on va en enquête professionnelle, et du coup, on sait ce que l'autre, il attend de nous. Et du coup, après, on refait son CV et on argumente en fonction de ce qu'on sait de l'autre. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est quand vous y allez de la part d'eux, une fois que vous avez fait une première enquête, c'est que la personne vous dit, eh ben, vous allez voir un tel et un tel. Mais vous lui demandez comment il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille, c'est quoi son profil. Vous préparez votre entretien. On est encore sur des enjeux de séduction tout le temps, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Séduction intellectuelle, hein, mais séduction, quoi. Donc comment je vais le faire en sorte qu'il m'écoute, comment je vais faire en sorte qu'il y voit de l'intérêt. Et forcément, il faut que je sois quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. Plus on fera des rencontres, c'est le but de Contact d'ailleurs, hein, plus il y aura des rencontres et des invitations de ces professionnels dans les labos, dans des colloques, plus ils seront invités, plus vous allez vous diffuser sur Viadeo et d'autres réseaux sociaux, plus vous allez vous faire connaître aussi, plus ils vont vous rencontrer, moins ils se feront une fausse idée de vous. Mais effectivement, il y a encore des gens qui me disent « Oh là là, celui-là, je vais l'avoir en entretien, il va encore me sortir tout ce qu'il sait faire, je vais encore avoir un mec sûr de lui. » Et puis en fait, on a en face des gens, au contraire, beaucoup plus humbles que certains, quoi. C'est-à-dire qu'on croit tout le temps qu'on doit, en entretien, valoriser, rassurer celui qui n'a pas fait beaucoup d'études parce qu'il manque de confiance, et que forcément, si qu'on va avoir en face de nous, je parle en tant que professionnel de l'autre côté, hein, qui a un bac plus machin, forcément, il est sûr de lui, quoi. Et en réalité, pas du tout. Donc là aussi, moi, de mon côté, j'essaye de casser le mythe. En disant, vous savez, au contraire, ce sont des gens qui ne sont pas forcément à l'aise.
C'est au niveau des caractères, mais c'est surtout au niveau des compétences, en fait. Par exemple, dans un emploi où on cherche tel critère, la thèse, est-ce que ça ne va pas être justement un frein à certains...
tout dépend comment vous la mettez en avant. C'est pour ça qu'on travaille encore, je fais la pub, mais la MED a mis en place la valorisation des compétences, comment vulgariser sa thèse en troisième année pour pouvoir se valoriser en entretien de recrutement. On travaille, là j'ai un groupe de sept troisième année, sept personnes, où elles vont se retrouver demain pour travailler sur comment retravailler leur titre de thèse pour que ça soit compris de n'importe qui, pour justement, à la fin du mois de juin, le 21, présenter la vulgarisation de leur thèse en valorisation de compétences devant un public de recruteurs et de chargés de ressources humaines. Voilà, c'est bien pour ça que ce module existe, mais vous pouvez le faire par vous-même quand même. Je pense que c'est gérable, ça. Être capable de parler de son travail simplement, c'est justement l'humilité qu'on en a, et c'est parce qu'on est extrêmement compétent qu'on arrive à le dire simplement. Si vraiment vous êtes obligé de faire le CV et que vous êtes obligé de passer par le papier et pas par le face-à-face, dans ces cas-là, travaillez la tactique, la stratégie de vulgariser ça en mettant des compétences génériques. Voyez, travaillez sur les compétences génériques. La fiche métier est bien faite sur justement les domaines scientifiques et la recherche, parce que c'est des compétences qui vont à beaucoup de monde en générique. Et après, rien ne vous empêche de rajouter votre spécialité en compétences spécifiques. Et de ne pas être dans trop le jargon non plus. Ça a passé très vite. En tout cas, je me suis régalée pour info. Hein. J'étais très stressée à l'idée de parler dans le micro, puis en fait, j'ai bien fait de le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comment conclure? Après, il y aura peut-être d'autres questions pour conclure aussi. Bon, je ne dois peut-être pas inviter les questions. Conclure, c'est juste vous dire qu'à partir du moment où vous avez fait votre propre bilan de compétences, que vous avez fait votre projet, que vous savez vraiment quelle est votre valeur ajoutée, vous allez oser faire tout le reste. C'est pareil pour les gens qui me disent dès le début, je ne ferai jamais une formation au-delà de 6 mois parce qu'il faut absolument que je travaille, j'ai autre chose à faire, je ne suis pas faite pour l'école. Et une fois qu'ils ont été rencontrés à les professionnels, ils sont tellement captivés par le métier qu'ils vont se taper 2 ans d'études, financés évidemment, on a trouvé une solution, hein, mais ils vont se faire 2 ans d'études parce qu'ils sont persuadés que c'est ça qu'ils veulent faire. Et ils ont tout, si vous voulez, l'énergie, on l'a quand on a envie. Et donc il faut réfléchir à qu'est-ce qui nous fait envie, quoi. C'est pareil pour les régimes, c'est pareil pour les vêtements, c'est pareil pour un voyage. Si on rêve d'aller quelque part, il y a un moment où on va trouver les moyens d'y aller, quoi. Je pense que c'est de l'énergie qu'on a, comme quand, je ne sais pas, on a peur de quelque chose et tout d'un coup, on est capable de courir. Si demain, il y a un taureau qui arrive, parce que j'avais une amie qui était tombée dans une corrida et le taureau qui est arrivé sur elle, elle m'a fait un sprint alors qu'elle ne sait pas courir, quoi. Et elle a sauté une estrade, enfin une barrière de, je crois qu'elle faisait 2 mètres. Mais avec une main. C'est-à-dire que quand on a l'envie, bon là c'est le stress qui fait autre chose, mais quand on a l'envie, non c'est pour vous dire, c'est une image, mais quand on a envie de quelque chose, on est capable de grandes choses en fait. Mais il faut partir de l'envie. Et c'est ça qui m'ennuie beaucoup, c'est qu'on a tendance à s'oublier soi-même, quoi. Qui je suis, ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. C'est très complexe, hein. On est complexe en plus, hein. Pour vous dire qu'on est capable de tas de choses quand on a envie, quoi. Mais là, elle avait très envie, c'était de se mettre de l'autre côté de la barrière, quoi. Donc, c'est j'ai vu ce qu'on était capable de faire physiquement même. Hein. C'est comme préparer un marathon. Je pense que si on veut vraiment le faire, même si on est très mauvais au départ, c'est une question d'entraînement et de volonté. Enfin, si vous discutez avec des sportifs de haut niveau, c'est pareil. D'ailleurs, on travaille de plus en plus sur l'image du sport. Mais quand on a comment vous dire ça? Quand on a envie vraiment de réussir quelque chose, par exemple, vous êtes, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui a gagné les JO, qui a eu la médaille d'or, donc ce n'est pas rien. Quand il a fait les préparations, il se visualisait dans la réussite. Et il y a des coachs sportifs maintenant, des spécialistes en psychologie du sport, qui travaillent sur le mental, parce qu'à ce niveau-là, c'est qu'une question de mental. Parce que physiquement, ils sont tous préparés, mais on sait qu'ils vont y arriver que si psychologiquement, ils sont prêts dans la tête et qu'ils voient la réussite. Bah là, c'est pareil, sauf que la réussite, c'est votre projet. Vous voyez, c'est des images, encore une fois, mais je pense que c'est très révélateur de ce qu'on est capable de faire, quoi. C'est l'essentiel. Et je pense que le bilan de compétences, on peut le faire soi-même, à vos souhaits. Donc, merci à vous. Et puis, au plaisir de vous revoir. Je pense qu'on aura mes contacts. Il y a possibilité au niveau de mon mail. Sinon, je le donne. Alors, je donne le micro, tant pis, je risque d'avoir plein d'appels. Donc, c'est Delphine Bahri, B-A-H-R-I. Delphine, donc, comme le prénom. Tout à coller, @yahoo.fr. Et n'hésitez pas à mettre SOS hein, si c'est extrêmement urgent. Il n'y a pas de point entre le Delphine et le Barry. Il y a le H après le A et avant le R. Donc bonne continuation et au plaisir.